todos, bonjour à toutes et à tous. Si vous nous écoutez sur Ode Radio, la radio de Haute-de-Garonne, sur la fréquence 91.3.
Hola!
Coucou!
Salut.
Coucou!
Salut!
Comme chaque mardi, bienvenue sur l'émission de Jeunes Reporters européenne que vous pouvez retrouver de 12h30 à 13h ou bien les soirs à 18h30. Aujourd'hui, autour de la table, je suis avec Emilien, Richard, Sacha, Héloïse, David, Claire et Guillaume. Salut tout le monde.
Salut.
Moi, c'est Carmen, je suis espagnole, je suis volontaire européen à la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine et c'est un grand plaisir pour moi de présenter l'émission d'aujourd'hui. Au sommaire de notre émission, Émilie nous présentera les témoignages d'une jeune européenne suivie de Richard et Sacha pour l'épisode 2 de leur chronique Balkan. Ensuite, c'est Claire qui nous présentera une VD sur l'histoire d'une petite danseuse. Après, Héloïse nous présentera un jeu mobile qui nous aura à réfléchir sur les sorts des réfugiés en Europe. Pour continuer, David nous fera découvrir un morceau de musique anglaise. Aujourd'hui, Guillaume mettra à l'honneur la cuisine andalouse et on retrouvera Emeline pour une chronique Voyage, voyage. Et en fin d'émission, Guillaume encore pour les portraits de Jean Monnet. Je donne tout de suite la parole à Emeline.
Merci Carmen. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter le témoignage d'Amalia. Alors, je vous concocte une petite version longue pour tout bientôt. Je vous en dirai plus la semaine prochaine.
Bonjour, je m'appelle Amalia Peto-Pantano. Je suis italo-argentine. J'ai 37 ans et j'habite à Bordeaux depuis 10 ans. C'est mon père qui est italien. J'ai grandi en Argentine jusqu'à... J'ai fini mes études en droit en Argentine. Et après, je suis partie en Italie pour faire une spécialisation en droit de l'homme. Donc, c'est mon père qui est italien et maman, elle est argentine. À chaque fois, j'ai vécu des étapes qui étaient différentes. Donc, je ne sais pas si les différences sont dues au moment que j'étais en train de vivre moi-même. Donc, moi, j'étais aussi différente. Ou est-ce qu'elles étaient dues, effectivement, aux différences de culture ou des coutumes. Je pense qu'en Argentine, en règle générale, oui, la femme, c'est pas soumise, c'est le mot, parce qu'on est assez caractériel par rapport à la France, par rapport à... Peut-être c'est une question de génération aussi. Mon père, par exemple, n'aurait jamais changé une couche, s'occuper des enfants ou faire le ménage. C'était pas du tout le cas. Et pour moi, c'est tout à fait normal, en fait. Du coup, mes frères, ils ont suivi le même exemple. Et ça, c'est normal. Même, je sens cette impression-là que dans la génération de mon père, même l'infidélité était supportée d'une façon très... c'est normal, l'homme est dans la rue, la femme est à la maison avec ses enfants, donc ça fait partie des coutumes, en fait. Il y a aussi, je pense, en termes de génération, une façon où avant la femme, une fois qu'elle avait ses enfants, bon, elle était destinée à rester à la maison, à plus prendre soin d'elle-même, en fait. Donc j'avais cette impression-là de voir les mamans de mes copines à moi comme des vraies mamans, en fait. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment cette idée de oui, j'ai 40, j'ai 50 ans, je peux quand même faire du sport, prendre soin de moi-même, bien m'habiller, me sentir toujours belle, si on peut le dire, en fait. J'ai 3 enfants. J'ai grandi dans une famille assez traditionnelle, donc au nord de l'Argentine. Les enfants, ils passent beaucoup de temps avec la famille, en fait. Il y a l'école juste le matin, donc t'as tout l'après-midi, ou si t'as les moyens, tu peux faire des activités, mais si t'as pas les moyens, tu vas rester soit avec maman qui travaille pas, qui est femme au foyer, soit avec la grand-mère ou les tatis, les papis. C'est pas le système d'ici. Je pense qu'ici, j'ai eu vraiment du mal à m'adapter à l'indépendance. Oui, l'indépendance, je ne sais pas si c'est le mot utilisé, mais le détachement en fait, entre l'enfant et ses parents. Par exemple, à 4 ans, quand ma grande a dû faire un voyage d'une semaine, les classes vertes, je pense que j'ai failli me rire. J'ai dit, mais elle a 4 ans, en fait, une semaine, mais avec qui, mais pour faire quoi? Et là, j'ai la maîtresse qui me dit, oui, madame, il faut leur apprendre l'indépendance, la frustration, là. Je me dis, mais elle a 4 ans, en fait, elle a toute sa vie pour être frustrée, indépendante, tout ce que vous voulez, en fait, donc voilà. Donc, autant dire que j'ai obligé mon mari à participer à tous les voyages scolaires. Je dis, voilà, donc tu iras, toi aussi. Donc là, je pense que pour le coup, c'est une... Voilà, on revient à la première question. Là, oui, c'est une vraie différence des cultures, en fait.
Merci beaucoup, Emilie. Merci aussi à Amalia. Et salut Richard et Sacha. Est-ce que ça va?
Ouais, pas trop mal, pas trop mal.
Bien on sûr. Est prêt à vous écouter.
Très bien, alors aujourd'hui dans le deuxième épisode de la Serbie. Donc bonjour à tous, pour cette deuxième semaine consacrée à la Serbie, nous parlons comme promis la semaine dernière d'une autre personnalité du monde culturel des Balkans, Emil Kostolica. Chronique un peu inhabituelle car la personnalité du jour possède également la double nationalité française depuis la fin des années 90. Et aujourd'hui, je suis toujours accompagné de Sacha.
Salut Richard, c'est toujours un plaisir. C'est un réalisateur célèbre de Serbie, mais il ne fait pas que ça. En fait, c'est aussi un musicien dans un orchestre très célèbre, No Smoking Orchestra.
En effet, Emil Kostolica est né en 1954 dans la région actuelle de la Bosnie-Herzégovine, dans une famille de Serbes installée dans un territoire bosniaque. Son père est un militant communiste et athée, ce qui jouera un rôle plus tard dans ses choix politiques ou même confessionnels, mais on y reviendra plus tard, ne t'en fais pas Guillaume. Grandissant dans la banlieue de Sarajevo, il est envoyé par ses parents étudier le cinéma à Prague, ville dont la chronique portant le nom d'une chanson de Desireless parlera sans doute un jour. En 1978, Emir réalise son court-métrage de fin d'études, Guernica, qui reçoit le prix international de Karlovy Vary en Tchéquie, un festival de court-métrage étudiant. Un premier prix pour un premier film, le début d'une prolifique série, puisque son premier film sorti en salle, Te souviens-tu de Dolly Bell, lui permet de remporter le Lion d'Or à la Mostra de Venise. C'est enfin en 85 qu'il remporte la Palme d'Or pour son film Papa est en voyage d'affaires, Palme d'Or décernée à l'unanimité, ce à quoi Emil Kostolica répond par un superbe discours que je me dois de vous lire en intégralité. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Voilà, classe et efficace.
Ah mais c'est nickel, très bon sens de l'humour comme tous les Serbes, je pense. Bref, la carrière de Kostolica continue en 93 et en adaptant le scénario d'un des étudiants, il réalise son premier film outre-Atlantique, s'appelle Arizona Dream. Au moment où la guerre éclate en Yougoslavie, le forçant à multiplier les allers-retours entre le Balkan et les États-Unis. Il faut comprendre qu'à cause de la guerre, identité régionale et religion sont devenus très liés en Yougoslavie. Serbes orthodoxes faisant face aux bosniens musulmans et Kostolica fit le choix de se ranger malgré son lieu de naissance du code serbe. Ce qui est critiqué de la part de certains bosniaques et après tout, il existe toujours une partie controverse dans la vie des individus célèbres.
C'est d'ailleurs suite à la guerre qu'en 95, Kostolica réalise son film Underground, son projet le plus personnel, dans lequel il aborde la question de la guerre en Yougoslavie. C'est peut-être son film le plus célèbre, ce qui n'empêchera pas de provoquer une polémique en France, puisqu'un certain penseur, bien connu pour son calme lors des débats, un certain Alain
Taisez-vous
Finkielkraut l'a critiqué dans le journal Le Monde, l'accusant d'avoir une vision pro-serbe. Ce à quoi Kostolica lui a répondu qu'il n'avait de toute évidence pas vu son film.
Mais si on parle de l'homme en artiste, il faut reconnaître que malgré certaines opinions discutables, il reste très intéressant. Il a même réalisé en 2005 un documentaire sur Maradona à la demande du footballeur parce qu'il pense que c'est lui qui peut faire ça. Je vous le recommande d'ailleurs, chaudement ce film, c'est nickel. De plus, il a aussi un orchestre, le No Smoking Orchestra, dans lequel il joue de la guitare. C'est d'ailleurs via la musique qu'il a rencontré Goran Bregovic, puisqu'il compose les musiques de certains de ses films et Kostolica les interprète avec son orchestre.
La musique joue un rôle central dans la plupart des films de Kostolica. Le cuivre des Balkans et les rythmes endiablés dont je parlais la semaine dernière pour Bregovic font partie intégrante des films de Kostolica et en définissent sa patte. Il faut aussi noter un aspect baroque dans la réalisation. Le baroque pour le côté too much en fait. Les plans sont rarement simples. Ça part dans tous les sens, ça s'agit de partout, ça crie de tous les côtés. Une confusion totale pour un effet des plus appréciables. Les films de Kostolica ont une grande influence sur le cinéma. Il suffit par exemple de regarder la séquence de course-poursuite du film produit par Netflix Okja pour faire un parallèle évident avec Kostolica. Mais il a été également impliqué dans d'autres projets en dehors du cinéma qui permettent de mieux cerner sa personnalité. Par exemple, il construit en Serbie un village nommé Kustendorf depuis 2000 après l'avoir utilisé pour son film La vie est un miracle. Ce village est très connu, même du gratin hollywoodien, comme de Johnny Depp ou de Monica Bellucci, qui est par ailleurs à l'affiche dans son dernier film On the Milky Way. Cet endroit est d'ailleurs avant tout ouvert à la diversité culturelle et contre la mondialisation. Un paradoxe parmi tant d'autres pour cet artiste, que ce soit par ses origines compliquées ou ses positions politiques, ce que la citation suivante résume bien.
Puisque je ne crois pas en la démocratie, alors en plaisant, j'aime me dire, si j'ai déjà ma propre ville, alors je peux choisir ses citoyens. Nulle part, je me sens à l'Amazon, je ne sais pas dans combien d'endroits je vis déjà.
Merci bien Sacha, et je dis donc aux auditeurs à la semaine prochaine. Et Sacha, tu as une dédicace à faire ?
Oui, en fait, je vous juste dis, j'ai anniversaire à mon frère Milan, Et je suis sûr qu'il ne doit sans doute pas écouter ce radio, mais c'est pas grave. Joyeux anniversaire, Milan.
Joyeux anniversaire, Milan.
Oui. Merci bien, Richard.
Merci beaucoup à vous deux. Je donne la parole à Claire.
Merci Carmen. En effet, aujourd'hui, je vais vous parler de bande dessinée, car comme Richard, je suis une vraie fan de BD, et ce, depuis que j'ai appris à lire. Donc moi, quand je choisis une BD, je ne m'intéresse pas tout de suite à l'auteur ni à l'histoire, mais plutôt au format du livre, au type de papier et au dessin. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous parler de Paulina de Bastien Vivès, un auteur français. Pas très exotique tout ça, mais attention, l'histoire se passe en Russie, donc hashtag vive l'Europe. Paulina, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Paulina. Jusque-là, vous suivez. Non, mais c'est surtout une histoire tout en douceur qui relate la vie d'une jeune danseuse étoile. De son enfance lorsqu'elle intègre à 6 ans une prestigieuse école de danse russe, jusqu'à sa vie d'adulte lorsqu'elle travaille dans une compagnie de danse. Ce qui est marquant dans cette BD, c'est que l'on ne tombe pas dans les mécanismes habituels de la danse classique. On ne parle pas de la difficulté de cette discipline, de la rigueur, de la dureté qu'elle demande. Non, ici nous sommes là pour Paulina, pour son histoire. Nous la suivons dans son quotidien, nous partageons ses joies et ses tristesses. On peut vraiment s'identifier à elle, car avant d'être une danseuse, c'est surtout une jeune fille comme les autres. Et en termes de dessin, c'est assez surprenant. C'est en noir et blanc, avec des traits plus ou moins épais. Le dessin n'est pas précis et les cases sont parfois presque vides. Mais pourtant, ça ne gêne en rien la lecture. C'est vrai, les visages ne sont même pas dessinés et l'on aperçoit une simple silhouette plutôt vague parfois. L'auteur va à l'essentiel, il nous montre directement ce que l'on doit comprendre. Paulina, c'est un petit peu un ovni, en termes de dessin certes, mais aussi au niveau de l'histoire. Vivès est plutôt habitué aux BD quelque peu osées, mais avec Paulina, il nous offre une histoire aussi mignonne qu'un panier rempli de chatons. Je ne peux que vous conseiller de lire cette petite merveille qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, et je vous invite à faire un voyage en Russie avec cette BD ayant reçu le Grand Prix de la critique de BD 2012, mais aussi avec le film s'appelant Danser sa vie par Paulina, sorti en 2016. Voilà.
Merci beaucoup Claire, on va écouter maintenant à Héloïse.
Gracias Carmen, bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve sur les ondes pour vous partager une chronique jeux vidéo. En effet, cette semaine je vous parle d'un jeu Android, Enterre-moi mon amour. Il s'agit d'une fiction interactive et engagée coproduite par Arte. Ce jeu nous conte une histoire d'amour haletante et d'exil pour des jours meilleurs. Depuis des années, les bombes tombent sur Homs en Syrie. Elles détruisent la ville et sèment la mort. C'en est trop pour Nour. La jeune femme craque. Elle décide de partir pour l'Europe et de rejoindre l'Allemagne. Là-bas, peut-être, retrouvera-t-elle une vie sereine. Maj, son mari, décide de ne pas la suivre. Alors ensemble, Maj et Nour préparent le grand voyage et achètent deux téléphones pour rester en contact. Et un matin, Nour s'embarque dans cette périlleuse aventure. Avant de la laisser partir, Maj l'embrasse sur le front et dans un souffle, lui glisse cette phrase que les Syriens s'échangent en guise d'adieu. « Enterre-moi, mon amour. » Enterre-moi mon amour, ou plutôt je te souhaite bonne chance, résonne comme un cri d'espoir et comme un cri du cœur. En effet, en arabe, enterre-moi mon amour signifie « prends soin de toi et ne t'avise surtout pas de mourir avant moi ». Ça y est, la partie se met en route, une messagerie s'ouvre sur votre téléphone. Nour vous parle et vous demande de l'aider. Et c'est là que l'on comprend toute la portée de ce jeu. Nous ne sommes plus que de simples joueurs ou observateurs de la situation. Nous incarnons Maj, le mari de Nour, et nous devons la guider, lui répondre, pour que son voyage se déroule au mieux. Ce jeu est moderne par sa forme, car nous pouvons répondre via des emojis et des selfies représentant Maj. Mais il est surtout immersif, car ce sont nos choix qui vont influencer le cours de l'histoire. La réussite du périple de Nour est entièrement sous notre responsabilité. La trame narrative est intelligente et nous fait comprendre la difficulté et la réalité du quotidien dans un pays en guerre. Comme dans l'épisode où Nour se retrouve coincée dans un hôpital à Alep après une série de bombardements. Elle-même chirurgienne est alors réquisitionnée dans l'urgence pour soigner avec peu de moyens. La construction de ce jeu est très ingénieuse et participe au côté immersif. On fait face à une notion de temps comme dans la réalité. Chaque chapitre se déroule par date et Nour peut parfois vous laisser patienter une bonne quarantaine de minutes avant de vous répondre. Vous ferez aussi face à la notion réelle du danger, comme lorsque Nour vous envoie une des photos pour lorsque la situation se fait périlleuse. Enfin, un GPS est à votre portée pour retracer l'avancée du voyage. Outre l'aspect ludique de ce jeu, il y a aussi une véritable dimension artistique. Chaque photo que l'on reçoit sont en vérité des illustrations réalisées par le bédéiste Mathieu Godet. Cette fiction particulière que l'on pourrait qualifier de raconter le monde par message a été écrite par Pierre Corbinet et Florent Morin. Cette Serious Game est inspirée d'un article paru dans Le Monde. L'article retrace l'histoire réelle de Dana, une réfugiée syrienne habitant aujourd'hui en Allemagne. Durant son périple vers l'Europe, cette jeune femme avait créé un fil WhatsApp pour rester en contact avec sa famille et aider les réfugiés ayant besoin d'aide. Et pour cause, la ligne directrice de ce jeu est bien la prise de conscience des problèmes majeurs de notre époque. Selon l'agence Frontex, soit l'institution qui régit les frontières en Europe, depuis 2015, 230 000 réfugiés ont fui leur pays pour cause de dangers immédiats. 2017 voit une vague de réfugiés politiques. 2027, si les hauts de ce monde ne changent pas leur politique environnementale, verrons-nous sûrement une vague de réfugiés climatiques. L'histoire de Nour nous démontre qu'il faut changer notre vision de l'immigration. En somme, Enterre-moi mon amour est un jeu qui m'a profondément émue. Ouais, je suis comme ça, moi je vis mes émotions à fond, les hypersensibles se reconnaîtront dans ces paroles. Car c'est bien de sensibilité dont il s'agit, mais ici on ne parle pas de sensibilité tire-larme distrayante et mélodramatique. Non, on parle de la vraie sensibilité, celle humaniste, celle qui fait appel à l'empathie, celle qui nous pousse à regarder le monde d'un œil nouveau. Ce genre engagé nous prouve que tous les réfugiés ne sont pas une menace. Mais voyons ces exilés plutôt comme des voyageurs partis pour fuir l'horreur dans leur pays à la recherche d'un nouvel Eldorado. Voilà, c'en est tout pour moi. Et c'est avec brio que je rends le micro à Carmen.
Merci beaucoup Héloïse. On passe maintenant à la chronique musicale avec David.
Aujourd'hui, on va parler des Pogs. Alors, pour éviter toute confusion et pour tous vos madeleines de Proustet, je vais vous dire ce que les Pogs ne sont pas. Ce ne sont pas ces jeux ô combien peu amusants des cours de récréation hantés 2000, faisant partie d'un kit souvent complété par un pitch, le goûter qui tient dans ta poche, d'une banane pleine de billes et de ton deck de cartes Pokémon. Ouais, parce qu'on dit deck quand on sait un peu de quoi on parle. Alors non, aujourd'hui c'est une autre ambiance avec d'autres addictions. C'est plutôt whisky, cigarettes, de tabac brun sans filtre et banjo crasseux. J'ai rencontré mon amour près de chez les gaziers. Le rêve d'un rêve près du vieux canal. J'ai embrassé cette fille près du mur de l'usine. Ça, les vieilles villes. Ça, les vieilles villes. Les nuages dérivés par-delà la lune. Les chats la nuit rôdent d'un pas régulier. Le printemps est une fille de la rue la nuit. C'est beau, hein ? Quel poète, ces Pogs. Alors, faudrait pas que je vous dise que le groupe initialement formé à Londres, en Angleterre, en 1982, portait le nom Pogmahon. Et il faudrait pas que je vous dise non plus que ce nom était une transcription en anglais de l'expression irlandaise Pogmothain, qui signifie « embrasse mon cul ». Non, faudrait pas. I heard a siren from the docks. Alors j'espère que tous, pour cette quatrième chronique musicale, vous vous dites « Eh, pourquoi est-ce qu'il nous fait écouter cette chanson ?» Non ? Et religion, c'est toujours la même chose. Couplet, refrain, début de couplet, tout le monde se pose la question « Bon Dieu, mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter ?» Eh bien, vous écoutez la déclaration d'amour d'un groupe de musique pour une dirty old town, une ville vieille et sale. Et tout le monde a cette vieille ville un peu crado, un peu malfamée. La mienne, elle se tenait place Fernand Lafargue. C'est une ville dans une place, me direz-vous ? Eh bien oui, vous savez, à 10 ans, maman, c'est la présidente du monde, votre chambre, c'est la localité indépendantiste, et votre place, c'est votre ville. Alors tant pis pour la musique, moi aussi, je veux dire à cette place Fernand Lafargue que je l'aimais. Pour sa crasse, pour ses clochards rigolos, pour Dempa qui me checkait tous les matins, pour les horaires d'interdiction de s'y rendre et pour le malin plaisir que je prenais à faire flipper Madame la Présidente en rentrant trop tard. Je l'aimais avant qu'elle ne soit prise d'assaut par une horde de gens cool et sympas qui lui vomissent dessus le samedi soir venu. Je l'aimais avant que je ne sois plus la cible de ce pourquoi je l'aimais. Alors je vous propose aussi de prendre quelques instants, presque en fermant les yeux, pour vous rappeler de votre dirty old town. By the old canal, I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town.
Merci beaucoup, David. Je donne la parole à Guillaume.
Oui, merci Carmen. L'actualité avance, l'actualité ne faiblit pas, mais aujourd'hui je vous propose une pause culinaire européenne et de partir en Andalousie, la région de Carmen. Alors imaginez, vous venez de faire de grandes randonnées en longeant le Guadalquivir, le somptueux fleuve d'Andalousie. Vous êtes passé entre les deux chaînes de montagnes, la Sierra Morena et le système bétique. Et si vous êtes cinéphile, peut-être vous êtes-vous promené également dans le désert de Tabernas, qui a servi de décor à de nombreux westerns dont Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone. Vous avez donc fait ces somptueuses randonnées, et maintenant c'est l'heure de la pause, il faut se requinquer, et un restaurant typique d'Andalousie ouvre ses portes pour vous. En entrée, le serveur vous sert des frituras de pescado, le poisson frit à l'andalou. Calamar, crevettes, anchois marinés dans le vinaigre, le tout frit dans l'huile d'olive. Rien de très transcendant, vous pourriez vous dire. C'est sans compter sur la salmorero qui est servie avec. C'est une crème élaborée à partir de mie de pain avec de l'ail, de l'huile d'olive, du sel et de la tomate. Ce plat est servi froid, généralement avec une garniture sur la surface telle que des copeaux de jambon cru, des croutons ou des miettes de dur. Continuant sur sa lancée, le serveur vous propose ensuite des habas con ramon, des haricots avec du jambon, plat traditionnel de Grenade, la ville au sud-est de l'Andalousie. Ce plat consiste en des haricots verts, généralement frais et de petite taille, qui sont cuits à l'huile d'olive et qui sont accompagnés de lanières de jambon, et il faut le servir chaud, généralement l'accompagner d'un plat aux œufs. Le serveur voit ensuite, enfin j'espère, que votre appétit est bien aiguisé et qu'il faut quelque chose de vraiment consistant, un vrai plat de résistance. Et là, il vous sert la olla de San Antoine, le pot de Saint-Antoine. C'est un ragoût typique, très consistant, qui comprend deux types de haricots, du riz, du boudin noir et différents morceaux de cochon. Vous mangez et vous vous dites, mais pourquoi donc ce plat s'appelle-t-il le pot de Saint-Antoine ? Le serveur, et moi surtout, vous répond que son nom vient d'une tradition médiévale, toujours perpétuée dans les villes d'Andalousie, le Morano de Saint-Antoine. En fait, le 13 juin, dans chaque village, un cochon se fait bénir par le pasteur. On lui met une cloche autour du cou et on le libère dans les rues. Il se fait nourrir, voire loger par les habitants pendant 7 mois et passe durant cette période d'un poids d'une vingtaine de kilos à plus de 150 kilos. Et le 17 janvier, jour de la fête et du festival de Saint-Antoine, le cochon est mis aux enchères et acheté par une famille du peuple, souvent bien plus cher que son prix initial. L'argent est ensuite remis à une ONG ou au travail social selon les villages. Cet exposé fait, vous pouvez remercier le serveur, et moi aussi, et celui-ci vous propose une alternative pour ceux qui ne mangent pas de cochon. Le choto al arijo, ragoût de chevreau traditionnel de Grenade avec des pommes de terre, une sauce à l'ail, du poivre, du pain et des amandes. Continuant une fois encore sur sa lancée, le serveur peut proposer aux végétariens la sopa de arroz andaluza, qui est une soupe à l'ail, ou la sopa arroz blanco, qui est aussi une soupe à l'ail, mais avec des amandes. Pour compléter, il y a aussi la remoron granadino, salade de morue très légère avec des oranges, des olives noires et des œufs. Enfin, c'est le moment qu'on attend tous autour de cette table, je crois. Non, non, ce n'est pas la rubrique fiscalité, c'est le dessert. Et là, tout dépend de la période. En effet, si vous venez aux fêtes de Noël ou de Pâques, le serveur aura des pistignos au menu, pâtisserie spécialement réalisée pendant ces fêtes. Pâte à base de farine et de sésame qui est ensuite frite dans l'huile d'olive, puis passée dans du miel ou du sucre. Sinon, rien de catastrophique. Le serveur vous servira des toriras, c'est du pain perdu à la cannelle, ou du leche frita, dessert sucré à base de farine cuite avec du lait et du sucre. Et normalement, après tout cela, voilà bien content, requinqué et fin prêt pour vivre de nouvelles aventures en Andalousie. En tout cas, j'espère vous avoir donné une bonne idée de vacances, ne serait-ce que d'un point de vue gastronomique. Je te remercie chaleureusement, Carmen, pour ton aide dans la prononciation de tous ces plats, et je te rends la parole.
Merci à toi de faire une chronique si jolie. Et maintenant, Emeline, on va où ?
On prend le train. Voyage, voyage !
Le train transportait les pardessus et les âmes. Ces vers de Thomas Tranströmer sont de circonstance. Un livre en voyage se lit par à coup. Il faut pouvoir interrompre sa lecture sans perdre le fil du récit, pour entamer une conversation, faire contrôler son billet, ou s'accorder un long moment de contemplation du paysage par la fenêtre. Il fait nuit et le train, parti de Paris, file vers l'est, avalant les kilomètres qui nous séparent du petit jour, et de Berlin. À bord, le poids du temps sur nos vies s'allège et semble suspendu entre deux mondes. Une fois installé dans les fauteuils matelassés, il ne se mesure qu'aux stations dépassées. Pas d'autre choix que d'attendre, que ce huis clos mouvant ne prenne fin. Il y a quelques heures pourtant, la tête passée par la fenêtre des wagons encore bien amarrés en gare, tous avaient les yeux rivés sur l'horloge du quai. Le train avait du retard sur son départ, mais on avait fini par lentement lever l'ancre. De là, on irait en Allemagne, et je continuerai ma route vers Prague. On avait fermé les fenêtres et laissé les accompagnateurs devenir minuscules sur ce quai de la gare de l'Est, dont rien que le nom faisait grandir dans l'esprit des images fantasmées d'un autre côté, rouge et baroque, déformées à travers le prisme de la sédentarité. Mais il faut passer du temps en Europe centrale pour comprendre à quel point cette notion d'entre-deux du continent est chère à ses habitants.
8h28 à cahoter dans un train. Pourquoi perdre son temps comme ça? Je n'en ai pas à gagner, alors je choisis de m'appliquer à ralentir. Le lieu et la durée du voyage se prêtent aux rencontres, pas si furtives que ça. Dans les compartiments où les vitres ne laissent entrevoir que les lumières de la prochaine ville et parfois un peu de pluie, les langues se délient. En face de moi est assise cette femme, pas très vieille mais plus toute jeune. On fait connaissance par bribes d'abord. Elle est déjà allée un peu partout. Chaque fois que nous relevons la tête de nos bouquins en même temps, elle me raconte un voyage. Gagner la Tunisie en voilier, traverser l'Amérique du Nord en train. Au fil des histoires glanées entre deux pages, j'apprends que je lui rappelle sa nièce. C'est chez elle qu'elle se rend, à Berlin. J'ai toute la nuit pour me l'imaginer. Quand je la rencontrerai au petit matin, en attendant ma correspondance, c'est les yeux rieurs qu'elle me parlera de la capitale tchèque. Prague, tu vas adorer. Mais accroche-toi, l'heure bien n'est pas la meilleure pour rien. 20h. Après avoir lutté un moment, chacun finit par sortir son gueuleton. Le Canadien et son fils à ma gauche lâchent leur polar le temps d'avaler un club sandwich. Je déballe mon pain et mon saucisson, attaqué au couteau suisse, graal gastronomique que je m'apprête à quitter pour un an. Avant que l'on ne s'en rende vraiment compte, il fait nuit depuis longtemps déjà, la faute à l'est et à l'automne venant. Prendre le temps de lire, de mal écrire aussi, le train s'agite beaucoup. À Metz, quelques passagers sortent prendre le frais, fumer une cigarette. En remontant à bord, la conversation se brode autour d'anecdotes décousues. On chuchote parfois pour ne pas réveiller les quelques chanceux qui sont parvenus à s'endormir. On les jalouserait presque, ce n'est pas facile dans les compartiments à place assise. Les Canadiens sont partis depuis longtemps. Le contrôleur leur a trouvé deux lits disponibles un wagon plus loin. Quelques insomniaques déambulent dans les couloirs, solidaires dans leur errance. Nous cavalons toujours, rejoignant le soleil qui va bientôt se lever, laissant derrière nous le monde qui sommeille. Hier, bonsoir, ce matin, guten tag. Le café est cher, mais nécessaire pour défaire son esprit des brumes d'une nuit sur la banquette. Imparable, le train se faufile entre les champs de panneaux solaires. Oui, les Allemands cultivent la lumière. C'est encore la campagne que les voyageurs se préparent déjà à prendre la ville d'assaut. Sac de rando épaulé, valise prête à grogner contre l'asphalte, se presse aux portes de sortie. Et puis Berlin est là. Simple traînée de couleurs d'abord, qui se fixe ensuite, et se modèle en gare. En montant dans le train pour Budapest, qui me laissera à Prague au passage, les quelques personnes déjà installées me saluent, en allemand ou avec des dobriden murmurés. Je souris, comme la détentrice d'un grand secret. J'ai pris le train de nuit vers la Bohème.
Merci beaucoup, Emeline. On passe maintenant à écouter un portrait d'un père de l'Europe.
Oui, merci Carmen. En effet, le portrait du jour est dédié à Jean Monnet. Je l'ai choisi car je crois qu'en cette période où l'euroscepticisme est à la mode, il peut être bon de rappeler certaines valeurs et de souligner l'action de cet homme qui a toujours cherché à rassembler les peuples plutôt que de les diviser. Aussi, saviez-vous qu'en 1939, juste avant la déclaration de guerre à l'Allemagne, il avait élaboré avec Winston Churchill un projet d'union franco-britannique ? Une union nécessaire uniquement pour la guerre, pourriez-vous penser ? Eh bien non. Si l'on regarde les termes de cet accord, on se rend compte que c'est beaucoup plus approfondi que cela. Il est écrit au nom de la solidarité face à la menace, que les deux gouvernements déclarent que la France et la Grande-Bretagne ne sont plus désormais deux nations, mais une union franco-britannique. Chaque citoyen français jouira immédiatement de la nationalité britannique, chaque sujet anglais deviendra citoyen français. Si cette union avait abouti, sûrement la guerre aurait fait moins de ravages et nous serions partis sur de très bonnes bases pour former l'Union européenne. Et là, ce ne fut pas le cas. Néanmoins, Jean Monnet ne renonça pas. Dans un but primordial de garantir la paix entre les peuples, il tendit la main à l'Allemagne, lui ôtant ainsi tout désir de prendre sa revanche sur les vainqueurs de la guerre, et un maximum de pays européens, et fit un discours solennel le 9 mai 1950, jour qui devint plus tard celui de la fête de l'Europe. Il affirma qu'une Europe fédérée est indispensable à la sécurité et à la paix du monde libre, et qu'aussi longtemps que l'Europe restera morcelée, elle restera faible et sera une source constante de conflits. 2 ans plus tard, la communauté européenne du charbon et de l'acier était lancée, mais dans une perspective d'abord économique. Conscient que cela ne saurait suffire, en même temps comprenant que le chemin serait loin à accomplir, Jean Monnet reconnut que l'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes qui créeront une solidarité de fait. Tout cela, c'était il y a plus de 60 ans. Aujourd'hui, où en est-on ? L'Europe est plus grande, 28 pays, mais il y a de la défiance, illustrée par la montée des nationalismes, le repli sur soi et le Brexit. Nous-mêmes sommes tellement habitués à la paix sur notre territoire que nous la tenons pour acquise, sans voir ce qui pourrait la remettre en cause. Et économiquement, nous nous contentons de la 5e ou 6e place sans comprendre que si on avait un État fédéral européen, nous serions de très loin la première puissance économique mondiale, en plus de la première puissance olympique. La tâche qui reste à accomplir est immense et voilà pourquoi il est bon parfois de se rappeler les valeurs que Jean Monnet nous a transmises. Je te rends la parole, Carmen.
Merci beaucoup, Guillaume. On arrive au terme de cette émission. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Merci aussi aux journalistes autour de cette table et à Philippe en régie. Ouh oui.
Philippe.
On se retrouve midi prochain à midi 30, mardi prochain, pardon, à midi 30 pour une nouvelle émission de Jeunes Reporters Européens. Retrouvez notre émission en rediffusion ce soir même à 18h30 ou bien en podcast sur le site de oderadio.fr. Bon après-midi sur Ode Radio, la radio des Hautes-de-Garonne 91.3.